Bonjour à tous et à tous. On est vraiment heureux ce matin de pouvoir être là ensemble avec l'équipe de louanges, avec l'équipe technique pour vous apporter un culte. Alors cette semaine avec l'équipe pastorale, les membres, les anciens et puis le CA, on essaie d'appeler les aînés, de prendre soin d'eux parce qu'il y en a qui n'ont pas internet. Et je me disais, mais punaise Seigneur, comment ils font, comment ça se passe avec eux, parce que souvent on se dit, mais c'est difficile, on est derrière la télé, c'est pas pareil qu'être ensemble. Et il y a une connexion qui se fait, c'est une connexion spirituelle. Et ce matin, je crois encore que nous sommes tous connectés spirituellement, nous sommes tous connectés avec Dieu et j'espère que vous allez vivre ce culte différemment comme les autres cultes et que vous allez apporter votre louange et votre adoration tout simplement. Et on va commencer dans la prière. Seigneur, vraiment, je te remercie mon Dieu parce que je sais que tu es là, je sais que tu es parmi nous. Seigneur, je sais que tu es dans les foyers, dans chaque maison Seigneur, et que même les personnes seules, tu es avec eux. Seigneur, je sais que ta présence va les envahir ce matin. Et Seigneur, je te prie vraiment, mon Dieu, pour que nous puissions chacun tous être connectés spirituellement avec toi. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, t'apportent cette louange, cette adoration qui t'est due. Merci, mon Dieu. Prends toute la place ce matin. Amen.
Amen. Oui, bonjour à chacun, à chacune. Nous n'avons pas encore la possibilité de nous retrouver dans ce lieu, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir louer Dieu ensemble. Nous ici avec l'équipe et vous aussi derrière vos écrans. Alors on vous invite vraiment à apporter votre offrande de la louange comme une offrande au Seigneur ce matin. La Bible nous invite à louer Dieu en toutes circonstances. Et je voudrais qu'on commence par ces quelques versets du psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tout.
Seigneur, notre louange est proclamée qu'il est ce Dieu merveilleux.
Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Je te chante pour ce que tu as fait.
Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois.
Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Amen.
Alléluia.
Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour incomparable, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que vraiment, Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as montré ton amour, lui qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Mais nous voulons célébrer encore ce matin qu'il n'est pas resté dans la mort, que la mort n'a pu le retenir et qu'il est réellement ressuscité et vivant par son esprit parmi nous. Sauveur, il sauve avec puissance. Oui, éternel, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Et nous voulons louer ta puissance. Amen.
Besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour suivre la voie que tu m'as tracée, et je me soumets. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort.
roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Sauveur,
sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Oui, Seigneur, tu as vaincu la mort et tu es la véritable lumière qui, en venant dans le monde, veut éclairer tout homme. Et à ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et d'apporter aussi la lumière là où ils sont, Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas les ténèbres qui gagnent sur la lumière, mais c'est la lumière qui l'emporte, Seigneur. Et nous voulons ensemble, avec toute l'Église réunie, qu'elle soit ici en présentiel ou comme on dit en distanciel, mais nous voulons ensemble proclamer que tu es la lumière du monde, Seigneur, et que ta gloire un jour remplira toute la terre, comme l'eau couvre le fond des mers. Nous voulons ensemble, Seigneur, célébrer ta lumière.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité.
Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire.
De la terre s'inclineront devant le fer, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint.
Son nom est saint.
Son nom est saint.
Il est saint.
Il est saint.
Son nom est saint.
Son nom est saint.
Il
puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint.
Amen, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Christ est saint et nous allons prendre ces instants, quelques instants, pour ensemble, là où vous êtes, remerciez Dieu. Remerciez Dieu parce qu'on respire, tout simplement. Remerciez Dieu parce qu'on a ouvert les yeux aujourd'hui et que nous puissions vraiment prendre ces quelques instants avec les enfants où vous êtes, avec la maison, avec qui vous êtes, de prier, d'adorer notre Dieu, de lui dire simplement merci. Oui, ce matin, Seigneur, ensemble, là où nous sommes, nous voulons nous unir d'une même voix. Père, pour te dire combien nous t'aimons. Nous sommes conscients que nous t'aimons bien imparfaitement. Mais Père, nous voulons encore ce matin te remercier pour le souffle de vie que tu nous as accordé, te remercier pour toutes tes bontés, tes grâces qui se renouvellent chaque matin pour nos vies, te remercier mon Dieu pour ta présence, te remercier parce que tu es là, parce que tu ne nous abandonnes pas Seigneur, merci pour ces chants, merci parce que cela nous fait du bien, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais encore mon Dieu, amen.
Alléluia, merci Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute la gloire Seigneur. Nous voulons élever ton nom, te louer. Oui, tu es roi. Viens nous visiter Seigneur encore ce matin, de ta présence. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus, nous te couronnons. Viens remplir ce lieu de ta présence. Nous voulons te voir au milieu de nous, revêtu de merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, nous te couronnons, viens remplir ce lieu de ta présence, nous voulons te voir, nous voulons te voir au milieu de de gloire et de puissance. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est
ouvrons nos cœurs à ce que tu dis. Viens remplir nos vies de ta présence. Nous voulons puiser cette eau si précieuse que tu as donnée. Nous ouvrons nos cœurs à ce que tu dis. Viens remplir nos vies de ta présence. Nous voulons puiser cette eau si précieuse que tu as donnée.
la terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire.
L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son
puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps.
L'Éternel règne et c'est rassurant de savoir qu'il règne sur toute chose, sur tout événement, et j'espère qu'il règne dans votre vie aussi. Alors nous allons passer à quelques annonces. Vous savez que vous pouvez nous contacter par téléphone en appelant le 06 28 13 58 51. Si vous avez besoin d'un entretien avec un pasteur, si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, vous pouvez même nous envoyer un SMS, on les lit, on a le portable avec nous. Vous pouvez aussi, si vous désirez avoir plus d'informations, aller sur le site web www.epis-strasbourg.eu. Vous verrez aussi ceux qui souhaitent peut-être revoir les messages. Sur ce site, vous trouverez les anciens messages. Vous trouverez aussi comment nous soutenir, faire une offrande, un don. Il y a toutes les informations qu'il faut. Il y a une information aussi qui est importante sur ce site et que je vais vous dire, c'est que tous les jeudis à 19h, nous nous retrouvons sur Zoom pour un temps de prière. C'est vraiment un temps bénéfique où on se fait du bien, où il y a une courte pensée qui est apportée et où on passe du temps dans la prière ensemble et aussi on passe un petit temps à prendre les nouvelles des uns des autres, ceux qui sont connectés. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Toutes les informations sont sur le site. Et maintenant, nous allons laisser la place ce matin à Michel Schneider qui va nous apporter le message de la parole de Dieu.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Anne, merci Sophie, merci toute l'équipe de Louanges, merci à l'équipe technique aussi. Je peux vous assurer qu'ils font un travail remarquable et nous en sommes vraiment reconnaissants. C'est avec le miracle de la résurrection de Lazare que nous terminons notre série aujourd'hui, les sept signes pour stimuler notre foi. C'est un miracle extraordinaire, sans précédent, qui marquera la fin du ministère public de Jésus, mais de façon magistrale. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 de l'évangile de Jean, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean au travers de cette série, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, qui couvre à peu près une période de 3 ans, Jésus s'est adressé à la foule. Par ses discours, par ses miracles, il a montré qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs le thème de l'évangile de Jean. Jean 20, 31 dira, « Ces signes sont décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ensuite, du chapitre 11 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 21, le temps est comme compressé. C'est une période de 3 mois à peu près. Et là, Jésus s'adresse à ses disciples pour fortifier leur foi et les préparer à ce qui va suivre à son départ. D'ailleurs, le verbe « croire » apparaît 98 fois dans l'évangile de Jean, puisque le miracle devait créer, l'objectif du miracle, il devait créer la foi chez de nouveaux disciples et en même temps, le miracle devait aussi contribuer à augmenter la foi des disciples qui étaient déjà en chemin avec Jésus. Et puis alors on constate quand même curieusement qu'une grande partie des témoins du miracle est restée incrédule. Ça paraît impensable, impensable. Après tous les miracles réalisés par Jésus, des signes qui devait indiquer et conduire à la foi, beaucoup sont restés incrédules. Tu pensais que s'il y avait plus de miracles, il y aurait davantage de personnes qui se convertiraient à Jésus. Eh bien, la vérité, c'est que le Seigneur lui-même était là, performant ses miracles, et en conséquence, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont restées incrédules. Le chapitre 11, dont on va parler maintenant dans un instant, chapitre 11 de l'évangile de Jean, est un chapitre pivot qui nous introduit dans ce qu'on appelle la passion de Jésus. La passion, c'est un terme générique pour parler des souffrances de Jésus. Au lieu de dire que Jésus a été trahi, a été accusé, a été maltraité, condamné, crucifié, on parlera de la passion. Vous avez sans doute vu le film « La passion du Christ » de Mel Gibson, où on décrit avec force détail tout ce qu'il a pu souffrir dans cette période. Dans l'entourage de Jésus, on distinguait sa famille, il y avait aussi ses disciples, il y avait aussi la foule, mais il y avait aussi ses amis. Jésus avait des amis. Le miracle de la résurrection s'est produit à Béthanie. Béthanie, c'est la maison du pauvre. Et c'est intéressant parce que Jésus vient là où sont les véritables problèmes. Il est souvent parmi les délaissés, souvent parmi les personnes fragilisées qu'il va encourager et qu'il va aider. Et là, à Béthanie, 3 kilomètres de Jérusalem à peu près, vivaient 3 amis proches de Jésus. 3 frères et sœurs célibataires, Lazare, Marthe et Marie. Et l'histoire commence au verset 1er du chapitre 11. On va faire quelques lectures pour étayer notre propos. Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Ce texte est connu, il est souvent utilisé lors des funérailles, et il nous parle davantage des réactions des gens que de Lazare lui-même. En fait, Lazare ne dit pas un seul mot. C'est intéressant. Moi, j'aurais bien voulu entendre le témoignage de Lazare. Il aurait eu des choses à dire. Mais Jean ne nous dit rien. Cette histoire est découpée en 4 parties et nous présente 4 différentes réactions face à la mort. Puisque cette histoire de la résurrection, elle nous questionne aussi sur la maladie, elle nous questionne sur la mort. Et on va essayer de voir quelles étaient ces réactions. Tout d'abord, celle des disciples. Jean au chapitre 11 et au verset 7. Jean 11, verset 7. Puis il dit aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus n'était pas le bienvenu en Judée, c'était le sud. Jésus venait du nord, la Galilée. Et vous connaissez le dicton, peut-il venir de la Galilée quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, ce mépris. Retourner en Judée, c'était prendre de très grands risques, c'était dangereux. Il venait tout juste d'éviter la lapidation. Et donc, les disciples craignaient que Jésus se fasse tuer. Et eux avec, bien sûr. Au chapitre 10, ils ont tout juste évité la mort. Et la réaction des disciples face à la mort, c'est la peur. Jésus prend en compte leur peur et va les encourager. Il dira au verset 9, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? 12 heures de jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas. » parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il s'agit ici d'un proverbe, il s'agit d'une métaphore, c'est-à-dire une image, d'après un proverbe de cette époque. Ce qui signifie, si je transpose, « Ne vous inquiétez pas de la force de l'ennemi ». Et ce matin, je vous dis, « Ne vous inquiétez pas de la force de l'ennemi. Mais considérez le terrain sur lequel vous vous tenez. Vous êtes sur le terrain de la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et merci à Sophie d'avoir pris ce chant. Je l'aime beaucoup. Jésus est la lumière du monde. Et avec lui, il fait jour dès qu'il est là. Être avec Jésus, c'est être en sécurité. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Avec Jésus, nous sommes du côté de la lumière. Et la lumière en nous, elle nous donne sa sécurité. Les ennemis de Jésus voulaient le tuer avant l'heure. Mais le moment de mourir n'était pas encore venu. D'ailleurs, on retrouve souvent cette expression, l'heure n'était pas encore venue. Et Jésus nous parle aussi de son ministère et de sa mission qu'il va mener jusqu'à son terme. Et chers amis, chacun d'entre nous, Nous avons une tâche à accomplir, nous avons une mission à accomplir. Et quelle joie de découvrir cette mission. C'est une source de grande satisfaction dans notre vie. Et vous n'allez pas mourir avant d'avoir accompli votre mission. Et un jour, vous pourrez dire, mission accomplie, je suis prêt pour une autre vie. Parce que la mort est un passage vers une autre vie, une autre dimension, la vie éternelle. Nous allons tous mourir un jour. Aucun de nous ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, ni les circonstances. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit « Aucun homme n'a autorité sur le jour de sa mort ». Là, on est tous égaux. Et mes amis, il vaut mieux se préparer et il vaut mieux être prêt pour ce jour. La Bible dira « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Un jour, il faudra quitter ce monde. Jean 11, au verset 11, nous dit « Notre ami Lazare s'est endormi ». C'est Jésus qui parle. « Mais je vais aller le réveiller ». Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri ». Ils avaient vraiment la trouille. Ils avaient peur. Parce que si je comprends bien, ils sont en train de lui dire « Mais Seigneur, s'il dort, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller. » C'est le langage de la peur. Il est plus facile de décourager quelqu'un qui prend des initiatives que de surmonter sa peur et de l'accompagner. Combien de projets, combien de rêves, combien d'initiatives ont fini par avorter parce que vous avez peur. Nous avons peur. Si Jésus avance, alors nous voulons avancer avec lui. Au verset 16, l'un des disciples qui s'appelle Thomas, là-dessus Thomas, appelé jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y aussi afin de mourir avec lui. » Thomas, le jumeau, on peut se poser la question, mais le jumeau de qui? Certainement qu'il avait un jumeau, mais le jumeau de qui? De toi ? Et de moi. Parce que quand on lit le texte, il semble bien qu'on lui ressemble. Il est connu comme celui qui doute. C'est une étiquette qu'on lui a collée, un cliché. Celui qui doute. Parce que lorsque Jésus s'est présenté après sa résurrection, il n'était pas avec les disciples. Et du coup, il dira, je ne crois pas, je croirai si je vois ses marques dans ses mains et le trou sur le côté. Et c'est à partir de là. On lui a collé cette étiquette, celui qui doute. Mais prenons le temps de lire vraiment tous les détails le concernant. Prenons le temps. Et voyons que finalement, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'honnête. Thomas est authentique, Thomas ne triche pas, il ne joue pas aux chrétiens. Il est courageux. Et il dit « Allons-y ». Et il va contribuer à ce que les disciples fassent la route avec Jésus. Alors la foi, ce n'est pas l'absence de peur. La peur est réelle, elle est là, elle est légitime. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur maître. La foi n'est pas l'absence de peur. Mais la foi nous donne le courage de surmonter nos peurs. Et combien de fois Jésus leur dira « N'ayez pas peur ». Et à des moments clés de leur parcours, il leur dira « N'ayez pas peur ». Et je vous dis ce matin de la part de Dieu, « N'ayez pas peur ». Deuxième réaction, celle de Marthe, au chapitre 11 toujours, et au verset 20. Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Dans toutes ces réactions que nous sommes en train d'analyser, il y a parfois de l'ambivalence, il y a parfois du mélange. Il y a d'un côté, pour les disciples, la peur, suivie d'un temps de courage. Ici, pour Marthe, il y a de la colère et il y a de la résignation. Le corps de Lazare se trouve dans la tombe depuis 4 jours maintenant. Les Juifs, nous le savons, n'embaumaient pas le corps comme le faisaient les Égyptiens. Ils lavaient le corps, ils versaient du parfum, ils l'enveloppaient de linge et après cela, ils le plaçaient dans la tombe. Et naturellement, au bout de 4 jours, il est en état de décomposition et même de décomposition avancée. Puisque Marthe va dire à un moment donné, il pue. C'est le langage qui est utilisé, il pue. Moi, je me souviens d'une dame qu'on a enterrée en plein mois de juillet dans un cimetière. Et il a fallu ouvrir la tombe dans laquelle reposait déjà le corps de son mari qu'on avait enterré quelques mois auparavant. Et je peux vous dire qu'en plein mois de juillet, avec la canicule, l'odeur qui émanait de cette tombe était absolument pestilence, absolument affreuse. Une odeur de pourriture. Et c'est une odeur dont vous vous souvenez toute votre vie. Alors nous ne savons pas de quoi Lazare est mort. Mais nous savons pourquoi il est mort. Pour la gloire de Dieu. Alors les chrétiens ne sont pas à l'abri, la preuve, ne sont pas à l'abri de la maladie. La maladie est quelque chose de naturel et nous avons un médecin avec nous ce matin ici qui est à la sonorisation, mais je parle sous son contrôle. La maladie est quelque chose de naturel. Elle nous atteint de temps en temps parce que nous sommes environnés de microbes, de bactéries, de virus, et en ce moment c'est le cas, qui peuvent nous affecter à tout moment. La maladie est parfois liée à des excès, que ce soit la nourriture, la boisson, un certain style de vie qui favorise une maladie. Parfois, certaines personnes naissent malades. Parfois, la maladie est la conséquence d'une discipline de la part de Dieu. On le voit dans la Bible, quand Myriam a protesté et a contesté l'autorité de Moïse, le texte dit que Dieu l'a punie, elle a été frappée de lèpre pendant 8 jours. La discipline. Ou bien 1 Corinthiens 11 nous parle de certaines personnes qui se sont comportées de façon indigne en prenant la Sainte Cène et qui sont tombées malades. Parfois, Dieu se sert de la maladie pour faire connaître son amour et sa puissance. Et on va en parler dans un instant. Je pense à Johnny Erickson qui est en chaise roulante. Je pense à Nick Vujicic, cet homme qui est né sans bras et sans jambes. Quel témoignage puissant de par le monde au travers, et vous avez sans doute déjà vu certaines de ses vidéos, et son slogan favori, c'est de dire « pas de bras, pas de jambes, pas de limites ». Et c'est vrai que Dieu n'a pas de limites en se servant de quelqu'un pour glorifier son nom et faire connaître qu'il est amour, qu'il est la lumière du monde et qu'il est capable de communiquer la vie en abondance. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Alors, je ne dis pas tout au sujet de la maladie, parce que c'est un sujet très complexe. Je reviens juste un instant. On ne peut pas tout dire ce matin, évidemment, mais c'est un sujet qui est très, très complexe et qui nécessite plusieurs messages pour bien en parler. Mais je vais à l'essentiel. Marthe dira donc à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Au fond, elle a la foi. Tu aurais guéri mon frère si tu avais été là. Mais sa foi est limitée, elle est réduite. Si tu avais été là. Autrement dit, tu aurais pu faire quelque chose il y a 4 jours. Mais maintenant, tu ne peux plus rien faire. C'est fini, c'est trop tard. Et on sent chez Marthe de la colère mêlée de résignation. Je disais, quelquefois, nos émotions, nos sentiments, nos réactions sont un peu ambivalentes et il y a comme du mélange. Et c'est le cas aussi pour elle. On sent comme de la colère mêlée de résignation. Alors, tous ceux qui pratiquent l'accompagnement et la relation d'aide connaissent les différentes phases du processus de deuil qui avait été élaboré par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Première phase, c'est le déni. La personne est sous le choc. Elle refuse de croire au décès. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Deuxième phase, c'est la colère. On s'en prend au médecin, on s'en prend au personnel soignant. On est en colère contre soi-même, en colère contre Dieu. Puis ensuite, il y a le marchandage, la dépression, et ensuite, finalement, l'acceptation. Globalement, ça peut varier d'un individu à l'autre. Il peut y avoir différentes variations. Mais grosso modo, c'est à peu près le processus de deuil. Marthe se situe dans la phase de la colère. Le deuil, d'ailleurs, vient du latin qui veut dire douleur. Et sous l'effet de la douleur, on dit des choses et on agit souvent de manière imprévisible. C'est le cas pour elle. Et Jésus comprend sa douleur. Jésus comprend sa colère. Il ne lui fait aucun reproche. Et ce matin, vous êtes dans la colère. Sachez que Jésus ne vous en veut pas. C'est légitime, c'est normal. Ça fait partie du processus de deuil. Le deuil, ce n'est pas seulement quand on perd quelqu'un. Il y a différentes formes de deuil, de pertes de toutes sortes. Et la colère fait partie de ce processus. Jésus ne lui fait aucun reproche. Mais il va l'encourager et il va lui dire « Je vais ressusciter ton frère ». C'est cela qu'il lui dit. Alors elle dit « Oui, je sais, au dernier jour, quand viendra la résurrection ». Alors Marthe connaît bien sa doctrine. L'enseignement en tant que croyante juive. Elle connaît bien Daniel 12, les premiers versets, qui nous disent « À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Elle connaît ces textes, mais elle n'entend pas ce que Jésus dit. Elle n'entend que ce qu'elle pense. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'entendre simplement ce que vous pensez? Alors, ce résultat, c'est qu'elle s'enferme dans la résignation. Tu aurais pu faire quelque chose si tu avais été là. Et puis Jésus dit, mais Marthe, je vais le ressusciter. Marthe dit, oui, au dernier jour. Et pour Marthe, l'odeur de la mort était plus forte que la réalité de sa foi. As-tu quelque part enfermé comme Marthe dans la résignation tes rêves, tes espoirs, tes projets, ce que tu avais à cœur de réaliser? Tu as tout enseveli dans la tombe. Tu crois que ce n'est plus possible. Tu as tant prié pour la conversion d'un être cher. Tu as tant fait, tant espéré. Et voilà qu'aujourd'hui, tous tes espoirs sont dans la tombe. Et Jésus dira, « Je suis la résurrection et la vie. » Il y a sept grands « je suis » dans la bouche de Jésus. « Je suis la lumière du monde. Je suis le pain qui est descendu du ciel pour notre nourriture. Je suis la lumière du monde. » Ici, il dit « Je suis la résurrection et la vie. » « Je suis la résurrection. » Autrement dit, il dira « Marthe, est-ce que tu me crois ?» Mon frère, ma sœur, mes amis, ce matin, je crois que celui qui est vivant est là. Moi, j'ai confiance en celui que je prêche. Et je crois qu'il est capable de nourrir notre foi, de conduire notre vie hors de notre résignation. Alors, comment faire pour croire? C'est d'entendre ce que Jésus dit. Et c'est de l'écouter. Il dit à Marthe, s'il y a une résurrection des morts, celui qui produit la résurrection, bien, il est en face de toi, Marthe. Il est en face de toi. Je suis la résurrection. Comment faire pour croire? Eh bien, je crois qu'il faut accepter que ce que Jésus nous dit soit la vérité. Jésus va détourner son attention de la mort pour la porter vers lui qui est la vie. Alors, c'est comme s'il disait Marthe, et c'est comme s'il nous disait ce matin, il te dit ce matin, Marthe, ne regarde pas à une résurrection future, oui, ça viendra. Ne regarde pas à la mort présente, mais regarde-moi. Et tout est centré sur la personne, sur l'œuvre, sur les discours, les faits et gestes de Jésus. Le chrétien doit revenir à une vie christocentrique. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer à Marthe. Marthe, regarde-moi, je suis la vie, je te donne la vie. J'aime beaucoup cette histoire dans l'Ancien Testament, le Premier Testament. L'histoire de Jacob, elle se trouve dans Genèse 45, où pendant 20 ans, le père de Joseph, Jacob, croit que son fils est mort. C'est ce que ses fils lui avaient dit. Et à un moment donné, il y a un retour des frères. Ils reviennent et lui disent « Joseph vit, Joseph vit !» Et c'est à force de parole que Jacob reprend vie. Et le texte nous dit « Jacob se ranima ». Et j'ai confiance que ce matin, quelque chose va se débloquer dans ta vie et que Dieu se sert de ce message pour ranimer ta vie et te donner la vie. Troisième réaction, j'accélère un tout petit peu. Marie, Jean 11, 29. Jean 11 au verset 29. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain, sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il y a chez Marie de la peine, mais il y a aussi de l'adoration. Au premier abord, la réaction de Marie est similaire à celle de Marthe. Elle est effondrée. Elle parle comme Marthe, mais pas tout à fait sur le même ton. Les Allemands disent « Der Ton macht die Musik ». C'est le ton qui fait la musique. Lors des funérailles, on peut observer toutes sortes de réactions. Les uns sont résignés, c'est la vie. D'autres sont nostalgiques, ah, il a eu une belle vie. Certains sont pragmatiques, il a eu une belle mort, il n'a pas souffert. Il y a ceux qui se révoltent et qui ne l'acceptent pas. Il y a ceux qui s'interrogent et qui posent la question, pourquoi? 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 Et d'autres encore pleurent et sont inconsolables. Marie a le cœur brisé, mais elle tombe aux genoux. Elle tombe à genoux, pardon, aux pieds de Jésus. D'ailleurs, Marie est très souvent aux pieds de Jésus. C'est la posture du disciple, c'est la posture de celle qui écoute, c'est la posture de celle qui apprend, c'est la posture de celle qui adore le Seigneur. Marthe est debout, elle est rationnelle, réaliste, pratique. Alors, restons équilibrés, on a besoin des Marthes dans l'Église. Si on n'avait pas de Marthe, il n'y aurait pas grand-chose qui pourrait se faire dans l'Église. On a besoin des Marthes. Marthe est debout. Marie est à genoux. Marthe exprime sa colère, sa résignation. Elle est franche, elle est transparente. Et Marie est dans la peine, mais cherche la présence de Jésus et la consolation auprès de lui. Alors Jean prend le temps de préciser que c'est cette Marie qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Et que ce parfum s'est répandu dans toute la maison. C'est l'image de l'adoration et l'expression de sa foi. Lorsque tout va bien, Marie est au pied de Jésus. Et lorsque l'épreuve l'atteint, Marie est encore au pied de Jésus. Je crois, chers amis, que Marie montre à l'Église où est sa place en temps de crise. aux pieds de Jésus pour chercher sa présence, pour l'adorer et trouver sa consolation. Et puis je termine avec la dernière réaction, celle de Jésus. Là, Jésus est grandiose. Au verset 35 du chapitre 11, Jésus pleura. C'est l'aspect humain de sa vie qui transparaît ici. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est un euphémisme ici, le texte dit, il pue. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ce qui caractérise la réaction de Jésus, c'est d'un côté l'amour et d'un autre côté sa puissance. Quand Jésus apprend que son ami Lazare est malade, au lieu de se rendre auprès de lui, il prolonge son séjour de 2 jours. Et là, on ne comprend pas. Humainement parlant, c'est un non-sens. On ne comprend pas. C'est quand même mystérieux. On a du mal à comprendre. Pourquoi est-il resté 2 jours de plus? Le texte est très expressif ici, c'est parce que Jésus l'aimait. Waouh ! Le verbe aimer apparaît 3 fois dans le texte. Quand Marthe et Marie disent « celui que tu aimes est malade », c'est le verbe philéo qui est employé. C'est l'amour humain, c'est l'amitié. Quand les Juifs disent « voyez comme il l'aimait », c'est aussi le verbe philéo. C'est donc cet amour humain. Et quand Jésus parle, quand Jean écrit « Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare », il emploie le verbe « agapao » que nous connaissons sous la forme « agapé », un amour particulier. C'est l'amour de Dieu, un amour sacrificiel, un amour qui donne, qui se donne, qui pardonne. Un amour qui se sacrifie et qui cherche toujours à donner le meilleur pour l'autre. C'est d'ailleurs le même vocabulaire qui est utilisé dans Éphésiens 5. « Marie, aimez vos femmes, agapao ». Ça veut dire qu'il est possible d'accueillir l'amour de Dieu. Et c'est vrai, l'apôtre Paul dira aux Romains, « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous pouvons être animés de cet amour. Dieu ne veut pas vivre cet amour à lui tout seul de manière égoïste. Il le partage avec nous. Il nous le communique par le Saint-Esprit. Alors nous avons tendance à interpréter l'amour de Dieu au travers de nos circonstances, plutôt que d'interpréter nos circonstances au travers de l'amour de Dieu. Jésus ne vient pas, donc il ne m'aime pas. Hein ? Je caricature, c'est un peu ça. La vérité, c'est que Jésus m'aime. Son amour est particulier. Il veut toujours le meilleur pour moi. Il sait ce qu'il fait en retardant sa venue. Interpréter nos circonstances au regard de l'amour de Dieu. Jésus ne voulait pas guérir Lazare de sa maladie. Il voulait le ressusciter. Et pour ce faire, il voulait bien s'assurer que Lazare soit vraiment mort. Pierre Chrysologue, un docteur de l'Église, un théologien du 5e siècle, Evelyne et moi, on aime bien les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, ceux qui ont influencé de manière significative les Églises au cours de l'histoire de son Église, l'histoire de l'Église. Il écrit, Pierre Chrysologue, Sermon 63, « Pour Christ, il était plus important de vaincre la mort que de guérir la maladie. Il a montré son amour pour son ami, non pas en le guérissant, mais en le rappelant de la tombe. » Il n'a pas préparé à celui qu'il aimait un remède à sa maladie, mais la gloire de la résurrection. Tout le monde pleure, Marthe, Marie, la foule, les amis. Jésus pleure aussi, c'est son côté humain. Mais ce n'est pas le même verbe qui est employé. Habituellement, quand les gens pleurent, c'est le verbe « klaio », pleurer avec des cris, comme un enfant. Mais quand Jésus pleure, c'est le verbe « dakruo », pleurer silencieusement, verser des larmes. Jésus pleura, c'est le verset le plus court de la Bible. Charles Spurgeon, le prédicateur du XIXe siècle, a écrit « C'est un verset que vous ne pouvez pas seulement lire, vous devez le ressentir. » Jésus ne diminue en rien la réalité de la souffrance. Au contraire, il s'approche de la tombe, il prie à haute voix. Et pour montrer que le miracle qui va suivre vient de Dieu et qu'on sache qu'il est envoyé de Dieu, il va s'exprimer vraiment à haute voix. Ce n'est pas la première fois que Jésus ressuscitera quelqu'un. Il a ressuscité la fille de Jaïrus, elle venait juste de mourir. Il a également ressuscité le fils d'une veuve dans le village de Naïn. Lui aussi venait juste de mourir. Mais là, Lazare est mort depuis 4 jours. Mais rien ne peut résister à l'amour et à la puissance de Dieu. Rien. La résurrection de Lazare est une démonstration magistrale de la divinité de Jésus. Personne n'a jamais accompli, ni avant ni après lui. Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a agi. Personne n'a réagi. Personne ne nous aime comme Jésus nous aime. C'est la raison pour laquelle je vous invite à placer votre foi en lui, votre confiance en lui. Cette résurrection est un avant-goût à sa propre résurrection. Et cette résurrection est un avant-goût de notre propre résurrection. Un jour, nous allons ressusciter. 1 Thessaloniciens 4,16, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, ceux qui sont restés en vie seront enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Et là, l'apôtre Paul dit, encouragez-vous, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. J'invite l'équipe de louanges à revenir sur l'estrade et à reprendre un chant. Les apôtres ont été rassurés et encouragés par les paroles de Jésus. Marthe, elle, a été confortée. Oui, la doctrine est là, mais celui qui est la résurrection et la vie, l'a conforté dans sa foi. Marie a été consolée et Jésus a été glorifié, le Père a été glorifié en montrant son amour au travers de Jésus et en montrant sa puissance. Jésus est le même, chers amis, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous placez votre confiance en lui, celui qui est la vie, vous communiquera aussi la vie en son nom, comme il l'a promis.
Proclamons la toute-puissance de notre Seigneur, celle que nous, dont nous vous entendons parler maintenant. Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, notre Dieu est puissant.
Il est juste et bon, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, 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 mon Dieu puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu puissant, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire.
Crois-le ce matin, il te permet de sortir de ta torpeur, de ta dépression, de ton découragement, de ta résignation. Crois-le, saisis sa main. Ensemble, nous voulons lui faire confiance. Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Crois-le, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Crois comme Marthe, crois comme Marie. Crois comme les disciples, reprends courage aujourd'hui. Non, ce n'est pas terminé, non, Dieu n'en a pas fini avec toi. Ne te décourage pas, reprends le flambeau, reprends courage et entends la voix de Jésus qui te dit « n'aie pas peur, prends courage, je suis avec toi, je suis le vivant ». Et fais-moi confiance. Seigneur, je te prie pour tous nos amis. Je te prie pour les frères et sœurs qui sont là, derrière leur écran, derrière leur téléphone. Seigneur, merci parce que tu es là auprès de chacun d'entre nous. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Et tu as le meilleur en réserve pour chacun d'entre nous. Merci pour tes bonnes intentions. Merci pour ton amour spécial pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de pouvoir aujourd'hui placer notre main dans la tienne, reprendre vie, reprendre courage et avancer à nouveau avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Eh bien Anne me fait signe que c'est à moi de conclure. Tellement heureux d'avoir été avec vous. Merci de nous avoir invités chez vous, peut-être dans votre salon, dans votre chambre à coucher, je ne sais pas. En tout cas, tellement heureux que vous nous ayez invités chez vous. Nous vous souhaitons le meilleur et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez prudents, respectons tous ensemble les gestes barrières, faisons confiance au Seigneur. Bon dimanche à tous, bonne semaine à chacun et chacune. Que Dieu vous bénisse.